song die je dan so lin jo nam la en jan jo man en an en jem so na lin jem so di bes en an do la pen je a san u ma jo an le mouna nar ma e san la jusqu'a le bej j'entre en refus par les bienfaits, les dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre réunion de ce soir. Le mardi soir est consacré à la pratique lundi. Lundi soir est consacré, disions-nous, à la pratique du Vajrayana et actuellement au sadhana de Chenrezig, la pratique du Bouddha de la bonté éveillée, ou la pratique d'immense bonté. Nous avons précédemment discuté le contexte de cette pratique et nous allons aujourd'hui commencer à aborder sa première phase. Vous êtes familier avec le plan de la pratique, refuge bodhicitta au début, on se tourne vers l'éveil et oppose une motivation d'éveil pour le bien de tous les vivants, et à la fin de la pratique, dédicace, une attribution des bienfaits de la pratique à la cause de l'éveil de tout vivant. Entre ces deux périodes d'ouverture et de clôture, les deux phases de la méditation, Kerim et Dzorim, la phase de génération et la phase de perfection. La phase de génération, de genèse ou de développement, on peut dire de différentes façons, et le moment pendant lequel on génère la présence de la déité, on génère la présence de Chenrezig, et l'on entre dans son expérience. Cette phase de génération a traditionnellement trois qualités. Ou, d'un point de vue pratique, on distingue dans celle-ci la clarté de la présence de Chenrezig. On s'entraîne à développer cette présence de façon claire. Puis il y a la compréhension de la nature de cette présence et l'expérience de cette présence comme étant notre nature. D'abord, expérimenter clairement la présence de Chenrezig. Lorsque l'on parle du Vajrayana, beaucoup de personnes entendent des pratiques de visualisation et de représentation. Il y a une difficulté ici dans la façon d'aborder, disons, la vision de Chenrezig, la présence de Chenrezig. Comment imaginer Chenrezig? Comment développer clairement son image, comment développer clairement sa présence dans une image qui soit il soit clair et stable. Cette clarté de l'image de Chenrezig dans notre imagination a différentes qualités. Elle amène la présence de Chenrezig en notre expérience et en même temps, c'est un support d'attention, c'est le support d'une présence attentive. C'est aussi une forme de shamatha, de rester tranquille dans l'expérience de la vision ou de l'imagination de Chenrezig. Alors, comment s'y prendre? Si l'on essaye de produire l'image de Chenrezig en se tendant ou en se concentrant, je pense que vous l'avez déjà essayé, ça ne marche pas vraiment bien. La meilleure façon de faire est d'évoquer cette présence très simplement en commençant par la contempler longuement. Pour la contempler longuement l'aspect de Chenrezig, on prend une image, un tanka, une représentation, et l'on peut contempler longuement. La contempler de façon très douce et se laissant imprégner à la fois de l'image et de la qualité d'amour, de compassion, de bonté que celle-ci exprime. Lorsque l'on dit contempler ici, c'est voir d'un regard simple et nu, ça n'est pas regarder, c'est plus se laisser pénétrer ou en étant dans un état attentif, ouvert et détendu, de laisser cette image s'imprégner en nous. En la contemplant silencieusement, en la prenant comme support de contemplation et en restant ainsi silencieusement dans son expérience. Et lorsque notre esprit est un petit peu comme on pourrait dire un appareil photo ou du temps où dans les appareils photo il y avait des pellicules photosensibles. L'imprégnation est proportionnelle, l'imprégnation sur la pellicule photosensible est proportionnelle à l'ouverture et au temps d'exposition. Donc, il s'agit de rester dans cet état d'ouverture et de réceptivité longtemps, et alors l'image s'imprègne en nous, et ensuite il est très facile de l'évoquer. Si je vous demande de penser ou d'évoquer la présence de quelqu'un qui vous est familier, qui vous est cher, un proche, ou d'évoquer présent à votre esprit un endroit que vous connaissez très bien. Alors ici, peut-être le Grand Stupa, ou autrement votre chambre à coucher, ou chez vous, quelque part. Non, cela peut vous venir, cela vous vient très facilement, présent à l'esprit, sentir un effort de visualisation. C'est juste évoquer et sans vouloir du tout solidifier l'image et l'imagination, simplement évoquer cette présence comme celle d'un aimé, d'une aimée, d'un proche. Et laisser notre esprit dans cette image tout en la visitant en quelque sorte dans ses différents aspects, comme si on scannait l'image. Et on laisse l'esprit bouger, on n'essaye pas de le fixer, mais il bouge dans les différents aspects de la présence de Chenrezig, des détails de son image, que l'on voit comme une apparence de lumière. Ça n'est pas quelque chose, une représentation solide, comme une statue ou même comme une peinture, mais une présence transparente, diaphane, et de rester détendu dans cette simple présence, qui est ainsi claire. C'est ce que l'on nomme la clarté de l'apparence. Et c'est le premier aspect de la phase de génération, le premier aspect pratique. Le deuxième est la compréhension de la nature de Chenrezig et la compréhension de ce que signifie et de ce qu'exprime profondément l'iconographie et l'image de Chenrezig, c'est-à-dire l'amour, la bonté éveillée. Chenrezig est la bonté éveillée en personne, l'amour, la compassion éveillée en personne. Et c'est ce sentiment, c'est cette expérience qui évoque la présence de Chenrezig et qu'elle amène présent en nous, présent en notre expérience. Le point ici est de ne pas s'arrêter à une image ou à un bodhisattva ou une personne, de ne pas rester dans une compréhension anthropomorphe de Chenrezig, mais de percevoir la nature éveillée qui est la sienne et cette nature de bonté, d'amour, de compassion qu'il est fondamentalement. Pour aujourd'hui, nous resterons là. Sur ce point, nous serons amenés ultérieurement, une fois, à entrer dans les détails de l'iconographie et de son symbolisme, mais aujourd'hui, je voudrais être concis. Alors, le troisième point pratique de cette phase de génération est lorsque Chenrezig s'est fondu en notre cœur, d'avoir l'expérience véritable de Chenrezig à sa place, de Chenrezig en soi. La présence de Chenrezig est en nous, et nous sommes fondamentalement Chenrezig. C'est ce que l'on nomme la fierté adamantine. Fierté, non pas au sens d'un orgueil, mais fierté au sens d'une reconnaissance et d'une appréciation de cette nature saine, de cette bonté fondamentale qui est en nous et que nous sommes, qui est Chenrezig, et nous sommes foncièrement, fondamentalement Chenrezig. Et lorsque nous récitons le mantra avec la lumière qui rayonne de notre cœur, c'est en tant que Chenrezig, c'est la lumière même de Chenrezig qui rayonne de notre cœur. Notre expérience corporelle est à ce moment-là celle de Chenrezig, plus ou moins détaillée, mais au moins un schéma corporel transparent, lumineux, comme une enveloppe de lumière qui rayonne de clarté. Une image que Vajradhara Kalaranjul Kuntiaba a utilisée était de dire que notre corps serait comme une ampoule à incandescence, avec le verre transparent qui serait l'enveloppe corporelle transparente, et au centre, le filament incandescent, extrêmement brillant, étant la lettre Ri en notre cœur avec son rayonnement. Mais ainsi, dans le sentiment de la présence authentique de Chenrezig, dans cette fierté adamantine, fierté Vajra, c'est le troisième aspect de la phase de génération. Puis, à la fin de celle-ci, tout se dissout, se résorbe, l'extérieur en Chenrezig, Chenrezig en le lotus en le riz devient un infime point minuscule qui finalement s'évanouit et c'est la phase de repos, la phase de perfection, repos en l'état naturel, repos en un état de pleine présence ouverte, sans agitation, sans distraction. Voilà, pour ce soir, je voulais présenter ces trois aspects pratiques de la phase de génération. Et s'il est des remarques, des observations ou des questions sur celles-ci, nous pouvons maintenant en parler. Vous avez la parole déjà ici.
Dans l'expérience de Chenrezig comme étant notre nature, il s'agit donc de s'identifier à Chenrezig, si j'ai bien compris. Et quelle est la différence entre s'identifier à Chenrezig et se prendre pour Chenrezig?
Il ne s'agit pas vraiment de s'identifier à Chenrezig, ni de se prendre pour Chenrezig. c'est un point important. Si l'on se prend pour le Yidam, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu curieux. Et cela amène même à des déviations. Il ne s'agit pas de se prendre pour, mais plutôt à l'inverse, de se déprendre. Et lorsque l'on se déprend, l'on est naturellement Chenrezig. Donc, c'est dans le lâcher-prise et dans l'abandon que l'on entre dans sa nature véritable, dans sa bonté fondamentale, qu'est Chenrezig. Mais l'imagination et l'intégration de Chenrezig nous ouvrent à cette présence, nous fait la comprendre, nous y amène. Alors, pareillement pour l'identification, s'identifier à Chenrezig, se prendre pour Chenrezig, c'est un petit peu synonyme, c'est même fort synonyme. Donc, ce n'est pas « je suis Chenrezig, je suis Chenrezig, je suis Chenrezig », mais plutôt quand « je ne suis plus cette Chenrezig », quand « je ne suis pas là », la nature qui subsiste est celle de l'empathie et de la bonté de Chenrezig. Mais le sentiment de cette présence, le sentiment de cette bonté fondamentale est très important, car c'est celui-ci qui nous donne une véritable confiance en soi. Foncièrement, je ne suis pas mauvais. Non seulement je ne suis pas mauvais, mais je suis même tout bon. Et foncièrement, Chenrezig est ma nature. Et en m'ouvrant à Chenrezig, en entrant dans cette nature, ce qui est bon s'accomplit et se manifeste. Donc, il y a là une confiance en sa nature de Chenrezig et la compréhension de la présence de la bonté fondamentale, simplement. De la bonté fondamentale en soi, de la bonté de Chenrezig en soi, avec cette confiance en soi. La confiance en soi, l'expression peut aussi prêter à confusion, c'est pas confiance en moi, confiance en mon ego, c'est confiance en son soi, avec un grand S, confiance en sa nature. Et c'est cette confiance en son soi fondamental qui permet de détendre le petit soi, le petit moi et le petit ego. Et donc, cette fierté adamantine et la l'intelligence, le sentiment de la présence de la bonté fondamentale, la bonté de Chenrezig en soi. Voilà. Merci pour cette question qui clarifie un point délicat.
Pema Chödrön, quand elle parle de son lien à son lama source, Trungpa Rinpoche, elle parle de cette sensation, de cette sorte de résonance de la présence du maître qui fait en fait émerger des choses, on peut ressentir des choses en soi qui pourraient ressembler à des rayons de soleil au milieu des nuages. Et est-ce que justement s'identifier à la déité, c'est qu'il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire la présence de Chenrezig en regardant la photo pourrait justement aider à émerger ces sentiments de la nature de Bouddha? Est-ce qu'il y a une similarité?
Quand on contemple Chenrezig, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a à la fois l'image et le sentiment. Et l'image est en quelque sorte imprégnée de cette bonté éveillée. Et comme quand on contemple l'image d'une personne que l'on aime, il y a à la fois son image et le sentiment que le visage ou la présence de cette personne nous inspire, l'amour, on ressent. Donc il y a l'image et le sentiment. Et c'est important, effectivement, de d'abord contempler ainsi dans la présence de l'image et du sentiment, que ceci soit associé, l'un évoquant l'autre. Et lorsque l'on voit Chenrezig, après lorsque l'on l'évoque, c'est en même temps ce sentiment d'amour, de compassion, de bonté éveillée qui est évoqué et que l'image inspire. Donc ça, c'est un aspect. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est que lorsque l'on pratique une déité, lorsque l'on pratique le yoga de la déité, comme Chenrezig, la présence de la déité est habitée de la présence de notre lama source, du lama qui nous a donné la transmission, qui nous a instruit en sa pratique. Donc, le lama source est la source de l'inspiration et le souvenir de sa bonté, de sa générosité, l'inspiration qu'il évoque et les qualités que l'on perçoit en lui habitent la présence de la déité, habitent la présence de Chenrezig. Et on dit l'apparence est celle de Chenrezig, l'essence est celle du lama source, ou encore à l'inverse, l'apparence peut être celle du lama source et l'essence celle de Chenrezig. Mais il est une imbrication qui fait que les deux sont étroitement associés et l'un ainsi habite l'autre et évoque l'autre.
J'avais une petite question pratique à poser par rapport à la pratique de Chenrezig. Quand je pratique seul, je récite le mantra très longuement, donc je vis la phase de génération très longuement et la phase de perfection beaucoup plus courte. Et je voudrais savoir s'il y a un équilibre à respecter ou si on doit le vivre comme on le sent naturellement.
C'est bien de le vivre comme on le sent naturellement. Et on peut avoir, en fonction de sa réceptivité, plus d'affinité pour la phase de génération ou plus d'affinité pour la phase de perfection. C'est bien, dans les deux cas. Et de pratiquer comme on le sent. Les deux sont utiles. Les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires, mais il peut y avoir une emphase, une importance en termes de temps différente pour l'une ou pour l'autre. Lorsque l'on pratique ensemble le soir, on tente à donner une période à peu près égale aux deux, ce qui est un bon équilibre, mais ça peut varier, c'est bien.
Donc on peut se faire confiance.
On peut passer plus de temps ou beaucoup de temps à réciter le mantra et ne faire qu'une courte période de dzorim silencieuse. Oui. Et à l'inverse, on peut aussi certaines fois ne réciter qu'un mala de mantra et avoir une période de dzorim qui soit plus longue. Et en fait, les deux s'imbriquent. La phase de génération remplace les pensées habituelles. Elle amène à la phase de perfection et de repos. Et lorsque des pensées reviennent, c'est le moment de reprendre la phase de génération qui se substitue à l'agitation habituelle du mantra, du mental, pardon. Et le point est que l'on ne bloque pas justement le mental, mais qu'il devient habité de la présence de Chenrezig avec son imagination, l'imagination de son aspect, de ses attributs, etc.
Je peux poser une petite question complémentaire?
S'il vous plaît.
Pendant la phase de génération, donc on stoppe le mental, normalement.
Il faut parler un petit peu plus...
Oui. Pendant la phase de génération, le mental est stoppé, l'arrêt.
La phase de perfection, vous voulez dire.
Mais le fait qu'on s'occupe à réciter le mantra... Ça empêche le mental de fonctionner, normalement.
On ne stoppe pas le mental, on ne l'empêche pas de fonctionner, mais le fait d'évoquer la présence de Chenrezig, d'imaginer Chenrezig au niveau visuel et d'avoir la récitation du mantra au niveau sonore, cela habite notre mental. Et fait que Chenrezig, en forme et en son, habite en notre mental et se substitue à la discursivité habituelle du mental, se substitue aux pensées habituelles, oui, en ce sens, oui. Il y a une substitution, en quelque sorte.
Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que moi, quand je pratique, ça peut coexister. Les pensées et la pratique, ça coexiste.
Tout à fait, parce que entre les mantras et entre la vision de Chenrezig, il y a des sortes de distractions et toutes sortes de... c'est normal, mais le propos est de revenir le plus possible et de rester... le plus possible dans la présence de Chenrezig. L'image et la récitation du mantra sans bloquer le mental. Et si le mental bouge, c'est bien qu'il bouge dans les différents aspects, le lotus, lune, bras, joyaux, bi, soirée, Et puis, bon, tous les détails de la forme extérieure, intérieure. Ce sont des... une image amusante d'une... Notre esprit est comme un petit bébé agité. Si le petit bébé agité, il a un hochet, il va prendre son hochet, il va se ça va l'occuper. Bon, au bout d'un moment, il jette le hochet. Mais s'il a plein de trucs, s'il a un hochet, et puis une balle, et puis des cubes, et puis des choses, il va prendre un truc. Hein, et puis, dans son agitation, il va prendre une chose et puis une autre. Mais la multiplicité des jouets, en quelque sorte, va contenir son agitation. Eh bien, dans la pratique de Chenrezig, la multiplicité des aspects de la représentation contient la versatilité de notre esprit. Donc, on n'essaye pas de bloquer le petit enfant, il résisterait, il se défendrait. Donc, on laisse l'esprit détendu et bouger, mais en allant de support à support dans les différents aspects de la représentation. Voilà. Dérine, s'il vous plaît.
Alors, une question de Philippe de Lure. La visualisation semble très importante pour le début de la phase de génération dans la pratique de Chenrezig. Comment peut faire un pratiquant aveugle pour cette visualisation ? Peut-on visualiser sans jamais avoir vu la représentation de Chenrezig ?
Ça, c'est une question délicate et difficile. N'étant pas aveugle de naissance, il m'est difficile d'y répondre. Il y a des différentes relations d'expérience qui donnent à penser que les aveugles, alors, lorsqu'ils ont eu des expériences de forme visuelle, même s'ils sont ensuite aveugles, peuvent en avoir les retrouver. Quelqu'un qui n'a jamais pu connaître ce qu'est une forme visuelle, il y a assurément une difficulté majeure, et ça n'est peut-être pas possible. Mais ce qui est important dans un cas de ce type, c'est d'avoir l'expérience du sentiment, le sentiment de bonté. Et ce sentiment de bonté bon, chaleureux, rayonnant, aimant, un sentiment d'amour, de bonté, de compassion. Donc, la présence de ce sentiment est la présence de Chenrezig, et c'est une façon il est difficile de dire de l'imaginer au sens littéral, mais de l'expérimenter, d'en développer la présence, et ce serait une façon de vivre la phase de génération sans une représentation visuelle précise. Quelqu'un avait demandé la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez dire votre prénom comme ça en même temps. C'est, tout le monde fait
donc,
connaissance.
Je m'appelle Benoît.
Benoît, bonsoir.
Bonsoir. Je voulais savoir s'il fallait avoir une bonne expérience de la pratique de Shamatha Vipassana ou même une bonne expérience de la pratique de Chenrezi dans un simple état de présence avant de se laisser entraîner dans la pratique des différentes phases.
La pratique de Chenrezi dans la première expérience, la clarté de l'apparence, comme nous en avons parlé ce soir, est une forme de shamatha, une façon de stabiliser le mental, une façon de développer stabilité, repos. Donc, il est bien, et généralement, on cultive shamatha, le rester tranquille, pleine présence, avant et d'une façon simple, mais on peut très bien cultiver shamatha, présence attentive, dans l'expérience de la forme de Chenrezi, dans la représentation, dans l'imagination de sa présence. Et c'est une excellente façon de développer, de cultiver shamatha. Bien.
Une dernière question depuis Internet. C'est une question de définition. Détienne de Marseille vous demande si la phase de Kierim correspond au moyen habile et la phase de Dzorim à la sagesse.
C'est une façon de dire, oui. La phase de génération est un moyen, une méthode, et il y a une dimension méthodologique dans celle-ci, qui est l'évocation de la présence, la substitution aussi de la présence éveillée aux présences habituelles et samsariques. Donc il y a l'accent et la dominante est sur la méthode, alors que dans la phase de perfection, il y a repos, contemplation sans artifice et même sans aucune fabrication, et entrée ainsi ou expérience ainsi de la sagesse fondamentale ou de l'expérience cognitive fondamentale, qui shérab ou yeshé en tibétain, donc sagesse, intelligence ou expérience immédiate. Donc oui, la phase de génération peut être mise en relation et comprise comme tab, c'est-à-dire plus méthode, et la phase de perfection comme sagesse, intelligence immédiate. Et ce serait la dernière question, si vous voulez.
C'est une courte question. Juste, est-ce que vous pourriez rappeler l'utilité du mala ?
Le mala est très utile. Il y a beaucoup d'utilité au mala. Mais alors, c'est un rappel, c'est une façon d'associer le corps à l'esprit. Le mala favorise la continuité de la récitation. C'est des fois, on peut avoir une distraction, mais si il y a le mala, qu'on égrène, ça réenclenche en quelque sorte, ça ramène à la récitation. Et c'est aussi une façon de compter. Et il est bien dans la pratique et dans l'entraînement de se donner des... quand on va réciter dans la journée 300, 500, 1000, 10 000 mantras. Et si l'on a son mala, c'est une façon de les compter et de s'en rappeler. Donc c'est l'outil du pratiquant ou l'outil de celui qui récite des mantras, du manipa, on appelle cela.
Et est-ce que dans la pratique de Chenrezig, il y a un lien entre le degré du mala et le symbolisme du mala que tient Chenrezig?
Oui, mais on développera ça avec l'iconographie une prochaine fois. Un moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Sarva Mangalam, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et au revoir.